Chapitre 9. Le réveil avait été difficile. Non pas parce que Frank dormait du sommeil du juste à ce moment-là, mais au contraire parce que son cerveau avait été incapable de se synchroniser avec le rythme lent et paisible de la nuit. Ses pensées avaient bondi d'un détail sordide à l'autre. Même l'image de cette stupide mouche agonisant sur le dos aux pieds de Van de Velde lui était revenue. Le pas traînant, il se fit couler un café dans la cuisine. Il était à peine 7 heures, pourtant la rue de Meaux vibrait déjà de vie 2 étages plus bas. Avec son salaire d'inspecteur, Frank avait pu se permettre de louer quelque chose en plein Paris, dans le 19e. Et le quartier populaire où il s'était installé lui plaisait. Il espérait juste que Suzanne finirait par l'apprécier aussi. Tout comme cet appartement qui n'était pas grand, mais ensoleillé, et dont le parquet à chevrons apportait une touche chaleureuse aux pièces. Frank s'était procuré un fax posé dans le salon près du téléphone et du Minitel. Il ne l'utilisait que pour envoyer des messages à sa fiancée ou en recevoir. Souvent, avant de se coucher, plutôt que de l'appeler, il lui rédigeait quelques mots doux. Une feuille était sortie de la gueule de l'appareil durant la nuit. Frank la parcourut, le sourire aux lèvres. « Toi aussi tu me manques, Suzanne. » Il la rangea à côté de la serpette Opinel numéro 8 et de photocopies. Il s'agissait de clichés des disparus du sud parisien, des corps nus, lacérés, qu'il observa encore, immobile, avant de refermer le tiroir. Il mit 30 minutes pour rejoindre le long bâtiment du quai des Orfèvres en voiture. Quelle fierté il avait éprouvée quand, un mois plus tôt, on lui avait remis son arme de service, une paire de menottes, un plan de Paris et sa carte d'inspecteur, barrée de son ruban tricolore. Lui, un petit gars échappé d'une ville du bassin minier et issu de générations de mineurs, marchait dans les pas des grands flics. Charcot se dépêcha de grimper les 5 étages. Titi voulait tous les voir à 8 heures tapantes pour faire un point. Mais il perdit vite son entrain lorsque la plupart de ceux qu'il croisa l'ignorèrent. Santucci avait répondu son venin. Le jeune inspecteur se sentit mal à l'aise. C'était comme entrer dans une maison où l'on n'était pas le bienvenu. Et ça pouvait vite devenir insupportable. Des volutes de fumée s'élevaient de leur coin salon au fond du bureau 514, un endroit convivial ou de déprime selon les jours. Il était tapissé d'affiches de films cultes, Les Tontons Flingueurs, À bout de souffle, Garde à vue. Flanqué d'une banquette en mousse, de 3 fauteuils hors d'âge et d'une table basse où traînaient encore des verres sales et une bouteille de vin vide. Là, on buvait, on mangeait, on dormait parfois. Le Ricard et la menthe attendaient dans le frigo où Florence piochait en ce moment même une brique de jus d'orange. L'équipe avait installé son propre sapin de Noël, une babiole synthétique ornée d'une guirlande lumineuse et de boules bon marché. S'affichait plus le blues qu'autre chose. Serge Amandier grillait une clope sous un Velux entrouvert. Il adressa à peine un regard à Charcot. Puis il y avait Romuald Fayol, 38 ans, leur numéro 4, assis sur la banquette à griffonner des figures mathématiques sur les pages d'un carnet. On le surnommait Einstein parce que, à la suite d'une perquisition musclée qui lui avait valu une commotion cérébrale, il s'était mis à faire des calculs de tête d'une complexité extrême. En contrepartie, il souffrait de temps en temps de migraines capables d'assommer un bœuf. Titi arriva, une pochette jaune ainsi qu'un gros paquet de feuilles en main. Il posa l'ensemble sur la table, salua tout le monde, s'attarda face à sa dernière recrue. « Le glaive m'a raconté pour hier soir. T'as gagné ton ticket pour l'enquête, c'est bien. » Et te bile pas pour toute la crasse qu'est en train de nous faire Santucci, c'est un mauvais cap à passer. On va la lever, cette affaire, et lui clouer le bec à ce connard. » Se disant, il lui colla une tape sur l'épaule, puis alla remplir sa tasse à la cafetière. « Je viens de discuter avec le substitut. Il exige d'avoir des billes avant d'ouvrir une nouvelle procédure pour disparition inquiétante sur la personne de Delphine Escrémieux. On doit vite faire la lumière sur son implication éventuelle dans le meurtre de notre cadavre X. » Le glaive prépare un TG 11 points. Charcot, le TG, ça te parle? Télégramme. Serge Amandier applaudit ironiquement en se vautrant dans un fauteuil. Comme quoi on n'apprend pas que des conneries à l'école des inspecteurs. C'est ça, répliqua Titi en ignorant son adjoint. Le TG reprend la description physique précise du cadavre X et les circonstances de la découverte. Bientôt l'état-major le balancera dans tous les commissariats et gendarmeries de France jusqu'au fin fond des campagnes. Parfois ça coïncide avec un dossier en cours. En tout cas, ça nous donne des chances. Enfin, pour ceux qui liront le Telex. Tu comprendras rapidement que dans l'administration, même chez nous, il y en a certains qu'il faut pas trop bousculer. » Sur ces mots, le chef du groupe alla chercher le tableau sur pied et accrocha une feuille blanche. « Bon, des copies de toutes les photos, autopsies, scènes de crime, vont bientôt arriver du labo. Vous aurez chacun votre jeu. La brigade de protection des mineurs va jeter un œil aux clichés des mômes et essayer de croiser ça avec leurs affaires, notamment de pédophilie. Pour le moment, nous, on se focalise sur notre victime anonyme et escrée mieux. » Il s'empara d'un marqueur noir. « Serge, t'attaques ? Le voisinage a s'inforgé. » Amandier tira un vieux carnet de sa poche. « On va continuer à ratisser le coin. Les premiers voisins se situent à plusieurs centaines de mètres de nos deux containers. Sans surprise, ils n'ont rien vu, rien entendu de particulier aux alentours. Mais selon les Verdiers, des retraités des environs qui se baladent souvent dans les bois, la voiture de Delphine Escrémieux est là depuis un bout de temps, au moins 3 semaines. Les commerçants avaient l'habitude de croiser la jeune femme presque tous les matins, et là, aucun ne l'a aperçue ces derniers temps. Il y a un tas de produits périmés dans son frigo. Autrement dit, son véhicule était là, mais pas elle. Et personne ne s'est posé de questions. Si, mais c'est toujours le même baratin. Pas au point d'appeler la police, blablabla. Sinon, il ressort que Delphine était discrète, peu bavarde, mais polie. Ils n'ont jamais vu accompagner et n'en savent pas beaucoup plus, hormis qu'elle était une artiste et venait régulièrement dans cette espèce de résidence secondaire pour peindre et se promener dans la forêt. C'est tout ce que j'ai pour le moment. Titi inscrivit quelques mots-clés au tableau, puis se tourna vers Romuald Fayolle. Einstein portait une fine cravate noire. Ses roues flaquettes, noires elles aussi, étaient taillées au cordeau et lui donnaient une allure à la Belmondo dans ses meilleurs films de flic. La perquise dans le marais ? « Appartement avec une chambre, simple, fonctionnelle et en ordre », répondit Einstein. « Pas de trace d'un éventuel colocataire. On a rapporté une caisse de paperasse. À l'intérieur, il y a surtout un répertoire avec 106 contacts, dont les 2/3 sont des hommes. Pour 41 d'entre eux, on n'a que l'identité et un numéro de téléphone. Pour les autres, on a la fonction en plus, directeur de musée, sculpteur, agent, éditeur. » Un soupir général balaya la pièce. 106 contacts, c'était beaucoup. Tous savaient ce que ça signifiait. Autant de suspects potentiels à retrouver et à convoquer. Fayolle désigna ensuite un calendrier mural sur lequel des zones avaient été surlignées et annotées. Il était dans sa cuisine. Escrémieux partageait son temps entre le Marais et Saint-Forger. Elle y indiquait très précisément les périodes où elle se rendait dans les Yvelines. Si on se fie à son planning, elle y était depuis le 15 novembre et comptait revenir à Paris juste avant les fêtes, le 22 décembre. Sa voisine de palier, Madame Curvilliers, a confirmé la date de son départ. « Ok, » approuva Titi. « C'est cohérent avec ce que nous a dit Serge. Elle part à Saint-Forger pour s'isoler, mais disparaît, laissant tout en plan. Sa voiture, ses peintures... Un des tableaux était d'ailleurs en cours de réalisation. Autre truc intéressant, un locataire du 4e étage, un certain Monsieur Valin, a surpris un homme hier matin en train de rôder dans les couloirs. Le type traînait au niveau du 3e, devant la porte d'Escrémieux. Il devait être aux alentours de 7h30, une heure avant qu'on arrive pour la perquise. » Il raconte que l'individu en question l'a bousculé et a fichu le camp quand il a compris qu'il était repéré. Valin devrait déposer dans la matinée. Il a pu le décrire ? Tout s'est passé très vite. Rabelais, plutôt massif, blouson genre bombers de couleur grise et bonnet noir. Pas un habitant de l'immeuble, Valin en est certain. Et ce n'était pas Philippe Vasquez vu la description. Titi écrivit « Homme aux bombers », puis resta un moment immobile. Toutes les hypothèses se valaient à ce stade. Delphine Escrémieux se cachait-elle ? Était-elle morte ou en danger ? Il traça un trait vertical et marqua dans la partie droite « tueur ». Penchons-nous sur le tueur. Supposition, Delphine Escrémieux est l'assassin. Qu'est-ce qui pourrait appuyer cette théorie ?
Franchement, pas grand-chose, répliqua Florence du tac au tac. L'histoire de la toile inachevée, déjà, la contredit. Et puis quoi, elle tue une femme dans sa propre maison en lui brûlant le sexe et les seins ? Ensuite, elle nous envoie là-bas pour qu'on découvre le corps et qu'on se lance à sa poursuite ? Je n'y crois pas.
Tu ne sais pas de quoi sont capables les femmes ? Lâcha Amandier en s'arrachant de son fauteuil et se dirigeant vers la cafetière.
« Je suis plutôt bien placé pour le savoir, figure-toi. »
Elle a pété un câble et elle va se mettre à désinguer tous ceux qui lui font du mal. Ça serait pas la première fois qu'on verrait ça, une folie meurtrière. « Si c'était le cas, il n'y aurait pas eu les lettres ni cette mise en scène complexe, » intervint Franck. « Ce n'était pas un acte pulsionnel, mais largement mûri et organisé depuis des semaines. » Amandier eut un rire sournois. « T'as lu ça dans un de tes fichus bouquins ?»«
En partie, oui, mais surtout, c'est logique. » Tout a été préparé, contrôlé. Chez la plupart des criminels, on tue au plus vite, on s'enfuit, le plus souvent dans la panique. J'ai failli vomir mes tripes quand je suis tombé sur la dépouille, mais notre tueur, lui, est resté. Il a même pris tout son temps. Il a couvert la tête de sa victime avec un sac pour instaurer une distance.
Connerie, lâcha Amandier.
Connerie ou pas, il a quand même dessiné des yeux et une bouche sur ce sac en papier. Pourquoi ? Un regard l'effraierait-il davantage que des chairs brûlées ? C'est peut-être quelqu'un d'introverti, qui a honte ou qui a des problèmes d'ordre sexuel.
Bah voyons. J'ai jeté un œil au poème de Baudelaire. « Femme damnée », celui qui parle de Delphine et de sa compagne, Hippolyte, continua Charcot sans se démonter.
« C'est une histoire entre deux amantes. Je suis loin d'être un spécialiste, mais on peut envisager que le choix de ce poème ait un sens pour le tueur, ou que Delphine ait une orientation sexuelle particulière.
« Gwyn, tu veux dire ?»«
Possible. »
Florence siffla entre ses dents. Charco intercepta une œillade furtive entre Amandier et Titi, et il ne sut qu'en penser. Leur chef de groupe recadra finalement la discussion.
« Peut-être, peut-être pas, on verra plus tard. Tu sais, les poèmes ou les bouquins, ça ne met pas des criminels derrière les barreaux. Revenons sur du concret pour le moment. Les échantillons de sang, dont celui prélevé sur la poignée de porte de la chambre, ont été envoyés au labo de Nantes. Faut pas être pressé, on aura un retour sur le groupe sanguin au mieux au début de la semaine prochaine.
« Escrémieux et B+, précisa Einstein. Sa carte d'honneur était dans ses papiers.
« Le glaive m'a fait un topo sur les nœuds particuliers utilisés pour entraver la victime, continua Titi. Selon toute vraisemblance, le tueur a des connaissances sur le sujet, tout comme sur les processus liés à la décomposition d'un corps.
Il ajouta biologie, chimie, médecine, connaissances anatomie sur le tableau.
Faudra vérifier si Delphine Escrémieux touche sa bille dans ces domaines-là. D'autre part, la photo que Vasquez a trouvée n'est pas le genre qu'on apporte au labo du coin pour développement.
Club photo, laboratoire personnel.
Et le recueil de Baudelaire semble indiquer que le meurtrier est cultivé, instruit. Quelqu'un a une idée de la raison pour laquelle on a écrit « pagode » sur la porte ? C'est un lieu de culte pour les bouddhistes, une espèce de tour carré, mais vous voyez le rapport ?
Il secoua la tête. Titi inscrivit le mot, suivi d'un point d'interrogation, et poursuivit.
Autre chose, on ne sait toujours pas comment, bordel, il a pu sortir de l'habitation. On a inspecté chaque centimètre de ses containers, du sol au plafond.
Il a emprunté la porte d'entrée, déclara Einstein.
C'est l'unique possibilité. Faut demander à un serrurier d'inspecter cette porte et son système de fermeture.
Ok, Serge retourne là-bas, il va s'en charger. Amandier nota l'information avec calme. Titi remplit la colonne d'autres éléments pertinents soumis par son équipe, notamment le fait que le tueur était au courant des habitudes d'Escrémieux et détenait le code de son immeuble. Il n'oublia pas les remarques de Charcot concernant l'orientation sexuelle, qu'il griffonna dans un coin, puis considéra le tableau dans son ensemble.
Reste l'énigme Philippe Vasquez. J'ai eu le contre-appel du fichier central, ce type n'a pas d'antécédent judiciaire. Einstein, tu récupères son carnet d'adresse, t'essaies de cerner le bonhomme en interrogeant ses voisins et ses collègues. D'une manière ou d'une autre, il est impliqué, on ne le lâche pas. Je vais faire partir les lettres à la scientifique. Ils pourront peut-être en déduire le genre de machine à écrire qui a été utilisée, dénicher une empreinte digitale ou des traces de salive sur les timbres.
Titi balaya son équipe d'un regard assuré.
Je veux tout savoir sur Delphine Escrémieux. Environnement, fréquentation, routine, plan cul, et si elle était en relation avec des gamins d'une dizaine d'années. On me lance une requête auprès de France Télécom pour ses communications. Flo, tu t'occupes de ça et du répertoire de la demoiselle. Tu convoques tout de suite les premiers contacts pour qu'on les entende.
Je rappelle pour les alibis, date estimée du décès de notre cadavre X, jeudi ou vendredi dernier.
On s'intéresse à tous ceux qui ne pourront pas justifier de leur emploi du temps sur ces deux jours et qui ont une profession ou une passion en lien avec ce qui est listé sur ce tableau.
Il se dirigea vers la petite table, reprit son paquet de feuilles et le colla dans les mains de Charcot. Il s'agissait de tracts imprimés en noir et blanc, avec le portrait de Delphine Escrémieux, un avis de disparition et un numéro de téléphone.
La photo a été trouvée chez elle, elle date d'il y a 3 ans, c'est la plus récente qu'on ait. Porte à porte pour toi. Commence par son immeuble du Marais, frappe chez tout le monde, repasse le lendemain et le surlendemain si certains ne répondent pas, parce que c'est souvent le cas. Tu me diras quand ils ont vu Escrémieux pour la dernière fois, s'ils ont remarqué un changement dans ses habitudes ou une personne qui rôdait dans les parages, enfin bref, tout. T'élargiras après aux rues annexes, aux commerces, bars, restos à proximité. Tu fais ça au moins jusqu'au week-end. Profites-en pour t'acheter le bouquin de Baudelaire et lis-le. Tu nous feras un résumé, et si ça parle de pagode, tu nous fais signe.
Charcot ne parvint pas à savoir s'il se moquait de lui. Mais le chef de groupe enchaînait déjà.
Traîne dans le coin du Marais, ouvre les yeux et les oreilles. Avec un peu de bol, t'auras un tuyau sur l'homme aux Bombers. Il est peut-être du quartier, et s'il a été dérangé, possible qu'il revienne. Fais aussi un crochet par le commissariat du 4e. Tu leur files une pile de tracts. Ils ne jouent pas toujours le jeu, mais bon. Tout ce qu'on te dira sur Escrémieux peut se révéler important. Tu consignes tout, tes trajets, les établissements visités, et tu feras un compte-rendu précis par écrit. On ne doit pas rater une rue ou le moindre bar. Si tu juges que quelqu'un a quelque chose à balancer, tu convoques.
Ne nous ramène pas toute la ville non plus, grogna Serge. Le jeune inspecteur lui adressa un sourire. Il avait pris ça pour un trait d'humour, mais c'était mal connaître Amandier, qui alluma une nouvelle cigarette. Titi pointa ensuite la pochette remplie de feuillets jaunes.
On démarre une bulle. Charcot, tu connais maintenant, tu sais comment ça fonctionne. Évite de rédiger un roman ou de noter le dernier film de boule que t'es allé voir. Tu mets de côté les archives et l'affaire des disparus. Jusqu'à Noël, on mange Escrémieux, on vit Escrémieux, on rêve Escrémieux. Et ce samedi, tous sur le pont. On verra pour dimanche, mais attendez-vous à le passer ici aussi. Des questions ?
Je suis en vacances à partir du 20 au soir, fit Einstein, jusqu'au 26. On descend chez les parents de ma femme dans le sud. Tu te doutes bien de ce qui va arriver si je fais sauter.
Faut préserver ta femme. Garde tes congés, on fera notre bouffe de Noël tous ensemble dès qu'on pourra. Les autres ? Personne ne répondit. Charcot leva le bras. Juste un détail sur le dossier des disparus, tant que j'y pense. Il y a deux jours, j'ai remarqué qu'il manquait la page 146 de la bulle. Sur la 145, datée du 17 mai 1989, trois semaines après le dernier meurtre, Florence, tu suggères de vérifier tout ce qui a trait aux ascenseurs des immeubles des victimes, car ils permettaient tous d'accéder au parking, à condition d'en posséder la clé.
Florence réfléchit quelques secondes.
C'est loin tout ça, mais maintenant que tu le dis, ça me revient. On essayait d'établir des liens entre les trois femmes. Elles vivaient dans des secteurs très différents, ne se fréquentaient pas. Les immeubles n'avaient pas de gardien, mais il fallait un code pour y entrer. Code que notre homme détenait peut-être. À ça s'ajoute l'idée selon laquelle les tueurs frappent en général dans des endroits qui leur sont familiers. Je me suis alors dit qu'il pouvait exister un rapport avec un employé d'une société de maintenance qui se serait occupé de chacun de ces ascenseurs. Mais ça n'a rien donné.
Charcot acquiesça.
Sur la 147, datée du 3 juin, c'est toi, Einstein, qui évoque la piste des stands de tir.
Romuald Fayolle haussa les épaules.
Je m'en souviens pas. À un moment, j'ai dû me dire que l'assassin avait un flingue. Ses femmes, il les avait contraintes à monter dans sa voiture. Mais il avait son couteau, ça pouvait suffire. Je n'ai pas creusé, c'était une idée stupide. Tu sais, faut pas prendre la bulle pour une bible. On écrit tout et n'importe quoi là-dedans, surtout quand on a l'impression d'avoir exploré toutes les pistes.
Franck hocha la tête. Lorsqu'il vit l'énervement poindre dans les yeux de Serge Amandier, il était trop tard, il avait déjà demandé.
Une idée concernant la 146 ? Une idée, ouais, bien sûr, parce que tu crois qu'on se rappelle tout ce qui est marqué ?
Lâcha le numéro 2 en soufflant un nuage de fumée.
Il manque une page, et alors ? Ça va changer quelque chose ? Savoir si cette putain de page est tombée du paquet ou a été balancée à la poubelle va te permettre d'attraper le fumier qui a massacré trois pauvres femmes ? C'est ça que tu crois ? Les disparus, c'est 5 ans d'enquête, bordel, dont 3 de planques et de nuit blanche. Alors des feuilles dans des pochettes ?
Il méprisa Charcot du regard, se dirigea vers son bureau et s'empara de son blouson avant de partir, claquant avec rage la porte derrière lui.
« Ça lui passera, » dit Titi. « C'est toujours sensible de remettre en question ce qu'il a fait ou de supposer qu'on aurait pu rater un truc alors qu'il dirigeait l'enquête. »«
Et n'empêche qu'une feuille s'est volatilisée. Ne te bloque pas sur des détails pareils, Charcot, sinon tu t'en sortiras jamais. » Après cette ultime recommandation, le chef de groupe claqua dans ses mains comme pour couper court au débat et relancer l'équipe dans une bonne dynamique.
« Allez, on s'active, on a du pain sur la planche, en espérant que la pêche aux infos sera bonne. »